France Culture. Le point sur l'info. Antoine Geoffin.
Bonjour à tous. Moscou a commencé à envisager la fin de la guerre. C'est ce que veut croire Volodymyr Zelensky, qui appelle, comme ses alliés européens et américains, la Russie à accepter un cessez-le-feu total de 30 jours. Vladimir Poutine propose des négociations de paix directes à partir de jeudi en Turquie. Le président ukrainien ne ferme pas la porte. Première prière dominicale pour le nouveau pape. Léon XIV a récité la prière à Marie ce midi au balcon de la basilique Saint-Pierre. Nous sommes au Vatican dans ce journal. Direction également la Suisse et Genève, où les États-Unis et la Chine poursuivent leurs discussions pour tenter de trouver une issue à la guerre commerciale qui les oppose. Enfin, l'actualité politique en France et J-7 avant l'élection du président du parti Les Républicains. Deux candidats avec une ligne très proche, voire identique, nous dira notre invité Gilles Richard, spécialiste de l'histoire des droites. Est-ce une étape importante dans la guerre qui dure depuis plus de 3 ans en Ukraine? Les Occidentaux, Européens et Américains ont mis sur la table une proposition de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à partir de demain. Vladimir Poutine a proposé en réponse des négociations directes avec l'Ukraine à partir de jeudi à Istanbul, en Turquie. Oui pour la négociation, mais le cessez-le-feu d'abord, déclare ce midi le ministre français des Affaires étrangères, quand Emmanuel Macron dit, lui, attendre de la Russie une réponse claire. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Envoyée spéciale de France Culture à Kiev. Isabelle, cette proposition russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky répond oui, mais.
Oui, l'Ukraine est prête à des pourparlers directs avec Moscou, mais Volodymyr Zelensky attend d'abord de la Russie qu'elle applique dès lundi un cessez-le-feu complet de 30 jours. Ne serait-ce qu'une seule journée, il est inutile de poursuivre la tuerie, dit le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Or, Vladimir Poutine, qui n'aime pas les ultimatums, n'a pas une seule fois parlé de trêve conditionnelle dans son intervention d'hier. C'est à ce stade le point de blocage qui pourrait faire achopper les discussions envisagées à Istanbul. Mais pour le reste, si l'on regarde le verre à moitié plein, les choses avancent. Car c'est bien la toute première fois depuis le printemps 2022 que Moscou considère l'hypothèse d'une discussion pour mettre un terme au conflit. Pour le président ukrainien, c'est un signe positif que le monde entier attendait depuis longtemps. Or, il est rare, pour ne pas dire exceptionnel, que Volodymyr Zelensky emploie des termes aussi élogieux à l'endroit du locataire du Kremlin. D'autant que cette nuit, à l'expiration de la trêve de 3 jours décrétée par Moscou, une centaine de drones russes ont de nouveau pris pour cible les villes ukrainiennes.
Isabelle, en 2022, l'Ukraine et la Russie s'étaient déjà retrouvés à Istanbul, en Turquie, pour négocier, pour parler qui n'avait à l'époque rien produit. Qu'est-ce qui avait coincé ?
Des exigences russes jugées inacceptables, comme la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, l'autonomie partielle du Donbass sous contrôle de Moscou et la renonciation de l'Ukraine à adhérer à l'OTAN. À l'époque, la guerre n'est enclenchée que depuis quelques mois. L'Ukraine commence à reprendre l'initiative sur le terrain militaire et elle espère obtenir davantage par les armes que par la négociation. Mais ce qui rompt le dialogue, c'est l'ampleur des massacres de civils commis par les soldats russes à Boutcha. L'onde de choc international est immense. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice, dit alors Volodymyr Zelensky. Depuis, aucun processus de négociation n'a jamais pu être relancé.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale de France Culture à Kiev, en Ukraine, avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Merci à tous les deux. Donald Trump a réagi sur son réseau social aux déclarations de Vladimir Poutine. Il parle de potentiel grand jour. Et si le président russe a ouvert la voie à des négociations directes avec Volodymyr Zelensky, c'est en partie parce que les Américains ont mis la pression sur la défense russe, affirme l'ancien officier Guillaume Ancel.
La pression la plus visible, celle qui est publique, c'est sur les sanctions douanières et financières qu'adore Donald Trump, puisque le business, c'est vraiment son sujet. Mais en réalité, Trump a aussi exercé une pression militaire, sans le dire. Notamment, on se souvient que juste avant la grande cérémonie des 80e commémorations de la victoire contre le nazisme à Moscou, il y a eu des dizaines de frappes sur le territoire russe contre des entreprises qui sont très importantes pour l'industrie de défense russe. Ces frappes n'ont pu avoir lieu qu'avec l'autorisation américaine. Seuls les Américains sont capables de cartographier les trous et les lacunes dans le système de défense solaire russe et d'indiquer aux Ukrainiens par où il faut faire passer les drones pour arriver à toucher ces cibles. Donc, Trump envoyait un message implicite à Vladimir Poutine. Vladimir, arrête.
L'ancien officier Guillaume Ancel au micro ce matin de nos confrères de France Info. Midi et 35 minutes sur France Culture et depuis un peu plus d'une demi-heure désormais en la basilique Saint-Pierre de Rome, le nouveau pape Léon XIV célèbre sa première prière dominicale. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Culture en Italie et au Vatican, Bruno, l'affluence est évidemment beaucoup plus importante qu'un dimanche normal.
Ah oui, il y a des dizaines de milliers de personnes place Saint-Pierre et aux environs, notamment sur la Via della Conciliazione et cette grande avenue qui y mène. La prière, le discours de Léon XIV sont terminés depuis une vingtaine de minutes. Cela aura duré un quart d'heure. Il est apparu à la loggia de Saint-Pierre à midi, précise, avec cette formule toute simple. Frères et sœurs, bon dimanche. Le pape récemment élu rappelle d'abord que ce dimanche est la journée mondiale de prière pour les vocations. Vocations de prêtres et religieuses. L'Église en a besoin, dit-il. Et il lance cet appel aux jeunes garçons et filles. N'ayez pas peur, acceptez l'invitation de l'Église. N'ayez pas peur, cette formule rappelle Jean-Paul II dans un tout autre contexte, au moment où il y avait encore un mur entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'était un appel lancé aux catholiques de l'Est. Léon XIV a quelques mots ensuite pour commenter l'actualité internationale. Et là, il reprend une expression de François. Une troisième guerre mondiale a commencé à petsi, par fragments, par morceaux. Et il se tourne vers les grands de ce monde. Plus jamais la guerre. Un mot pour la situation en Ukraine. Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien. Il faut tout faire pour qu'une paix authentique et durable soit possible. Il appelle également à un cessez-le-feu et à la libération des otages à Gaza. Voilà pour cette deuxième apparition devant les fidèles. La guerre, une fois de plus, au centre du propos du pape, comme jeudi lors de son apparition au balcon de Saint-Pierre. Et il se confirme que ce pape a un profil de missionnaire. Il avait déjà appelé les cardinaux avant-hier à porter la parole de l'évangile. Aujourd'hui, cette cérémonie est marquée par cet appel aux jeunes. N'ayez pas peur de rejoindre l'Église.
Bruno Duvic en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome pour France Culture. Merci à vous. De grands progrès ont été accomplis. C'est ce que dit, ou plutôt crie, Donald Trump qui poste ce message, comme à son habitude, en lettres majuscules sur son réseau Truth Social. Le président américain ravi de l'avancée des négociations entre Américains et Chinois réunis depuis hier en Suisse à Genève. Les deux rivaux se parlent frontalement pour la première fois depuis que le locataire de la Maison-Blanche a décidé de relever les taxes commerciales sur les produits chinois importés aux États-Unis. Sur place pour RFI et France Culture, Jérémy Lanche.
D'un côté de la table, Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor. De l'autre, le vice-premier ministre chinois Yi Lifeng. Ni l'un ni l'autre n'ont livré quoi que ce soit à la presse, tenu à l'écart des discussions. Alors Donald Trump l'a fait pour eux. Le président américain parle de négociations amicales et constructives pour une réinitialisation totale de leurs relations commerciales. Beaucoup de choses ont été discutées, beaucoup ont été acceptées, affirme-t-il. Quoi, on ne le sait pas encore. Pour le moment, Washington impose une surtaxe de 145% sur les produits chinois, Pékin 125% sur les produits américains. De quoi faire plonger le PIB mondial de 7% selon l'OMC, qui se réjouit de cette rencontre sino-américaine. Personne ne s'attend à un accord définitif ce dimanche, mais que la rencontre ait lieu et que personne ne claque la porte est déjà une avancée majeure.
Jérémy Lanche à Genève pour RFI et France Culture. Plus de 47 000 espèces animales et végétales sont menacées dans le monde, constate l'Union internationale pour la conservation de la nature à l'occasion ce dimanche de la journée mondiale des espèces menacées. Et on apprend que la France fait partie des 10 pays avec le plus d'espèces en danger. Pourquoi cette vulnérabilité particulière de nos écosystèmes? Écoutez la réponse de Clara Marino, chercheuse en écologie au CESAB. C'est le centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité.
La France compte beaucoup d'espèces menacées. Une des grandes raisons, c'est que la France a beaucoup de territoires d'outre-mer, donc des îles sous sa juridiction, et aussi la Guyane française qui est dans un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire une zone où il y a énormément d'espèces. C'est une zone de forêt tropicale avec une grande variété d'habitats et une grande variété d'espèces qui sont sur place et qui sont menacées parce que les zones tropicales contiennent beaucoup d'espèces menacées. Aujourd'hui, la biodiversité, on dit qu'elle est menacée dans le sens où les populations de nombreuses espèces sont en déclin. Il y a des zones où les espèces ont tendance à s'éteindre plus rapidement que d'autres. Par exemple, ce sont les îles qui sont des endroits de petite taille, desquelles les espèces ne peuvent pas s'échapper, et sur lesquelles il y a beaucoup d'espèces qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent qu'à un seul endroit, Et donc si on supprime la population d'une espèce sur une île, ça conduit à une extinction globale parce que l'espèce n'existait nulle part ailleurs. Donc par exemple, les îles, on appelle ça des hotspots d'extinction, des points chauds, puisqu'elles contiennent beaucoup d'espèces endémiques qui sont menacées et donc qui, si elles s'éteignent, conduisent l'espèce à l'extinction immédiatement.
Clara Marino, chercheuse en écologie au Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité, elle répondait à Mathilde Laboureur et Alexis de Roubaix. L'actualité politique en France et ce décompte dans un peu plus d'une semaine à 18h dimanche prochain. L'élection du président Les Républicains sera terminée. Deux candidats se présentent pour succéder à Éric Ciotti, le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, et Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec nous pour en parler, l'invité du journal de France Culture. Bonjour Gilles Richard.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2, spécialiste de l'histoire des droites. Les adhérents LR doivent donc choisir entre deux hommes qui tiennent un discours plutôt similaire contre l'immigration illégale, ce qu'ils appellent l'assistanat, le wokisme. Ils prônent tous deux un tour de vis sécuritaire, la rigueur budgétaire et refusent de nouveaux impôts. Voilà pour le topo. Gilles Richard, est-ce qu'il y a vraiment des différences de fond entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau? Est-ce que c'est finalement cette élection plus un choix d'incarnation que de ligne?
Oui, sans doute. Il est certain que les deux candidats tiennent la même ligne, avec une différence tout de même, c'est que Bruno Retailleau est dans une continuité idéologique, hein, puisqu'il est issu du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, et que c'est un nationaliste, catholique traditionnaliste, alors que Laurent Wauquiez a beaucoup changé dans sa carrière, et quand il est devenu député puis ministre, il était plutôt un européiste convaincu. Voilà. Donc il y a deux lignes politiques identiques défendues, mais deux passés pas tout à fait identiques.
Est-ce que clairement on peut affirmer aujourd'hui que le vainqueur de cette élection, on va sortir un petit peu la boule de cristal si vous voulez bien, est-ce qu'on peut affirmer que le vainqueur de cette élection sera le candidat de LR à l'élection présidentielle dans deux ans, ou est-ce qu'on pourrait voir une candidature dissidente?
Ah, ça, personne ne peut prévoir qu'il y aura ou non une dissidence, mais il est très probable que le président de LR sera candidat à la présidentielle, représentera le parti à la présidentielle. C'est très, très probable.
Les scores de
donc,
dimanche
il
prochain
n'y aura pas de primaire.
Les scores de dimanche prochain à ce titre seront peut-être importants, suivant l'écart entre le vaincu et le vainqueur?
Oui, comment savoir? Il y a eu tellement de nouvelles adhésions ou de réadhésions qu'il est très difficile de faire un pronostic. Et il y a des anciens adhérents qui reviennent, environ 30 000, mais quasiment autant qui sont des nouveaux adhérents. Et donc, comment savoir pour qui ils vont voter et d'où ils viennent? Est-ce que ce sont des zémouristes, par exemple, qui se sont inscrits pour intervenir dans l'élection de LR? On ne le saura que plus tard.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Républicains est à la croisée des chemins, à la fois présent au gouvernement, par notamment Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, et tenté de récupérer l'espace, si tant est que cet espace existe, créé par cette incertitude liée à l'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen?
Oui, c'est probablement ce qui incite les deux candidats à miser sur une récupération de l'électorat ou d'une partie de l'électorat du Rassemblement national, c'est certain. Mais il faut quand même savoir que il y a 100 000 adhérents environ avec les nouvelles adhésions.
Ils ont revendiqué 121 000 les dirigeants de l'ère.
Oui, ça a augmenté. Bon, j'avais pas lu directement c'est ce l'inflation. Matin, donc il y a eu beaucoup de nouvelles cartes ce matin, hier. Dans les derniers jours, je veux dire. On est loin des 350 000 de 2007. Hein. Toute une partie des adhérents de type libéraux, favorables à l'Europe, jupéistes, sont partis et ils se retrouvent plutôt derrière Édouard Philippe. Là, le choix a été fait de viser effectivement l'électorat perdu du côté des nationalistes, du côté de l'extrême droite, en profitant de une espèce de fenêtre d'opportunité, pourrait-on dire, avec les difficultés de Marine Le Pen, mais aussi les difficultés d'Éric Zemmour, puisque Marion Maréchal Le Pen a fait une scission dans son parti.
Merci Merci Gilles Richard, pardon, le temps nous manque. Merci d'avoir été notre invité dans ce journal de France Culture, professeur émérite, je le rappelle, d'histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Un mot de météo pour vous dire que les orages arrivent cet après-midi sur l'île de France, la Seine-Maritime, les Pays de la Loire et le centre-Val de Loire. Temps pluvieux sur la vallée du Rhône, la Bretagne, les côtes de la Manche, soleil en Corse, en Alsace et en Franche-Comté, de 17 degrés jusqu'à 23 cet après-midi à Paris.